VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila qui est en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. Vous écoutez la deuxième édition de la soirée. C'est le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. D'abord, les points qui dominent l'actualité de ce lundi 20 mars 2017. Paul Kagame au Vatican pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre le Rwanda et l'Église catholique. Discussion à Rome d'un plan pour stopper les flux migratoires en Méditerranée. Environ 3000 personnes ont été secourues au large de la Libye. Le football féminin à Lomé au Togo.
Les amoureux du football féminin ont fait le déplacement du stade pour suivre ce match du premier championnat togolais de football féminin qui suscite de l'espoir.
Kai Lawson nous fera le point. Le chef du FBI et de la NSA devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Et à suivre après le journal, l'économie et les sports. Je vous le disais dans les titres, le pape François a reçu aujourd'hui au Saint-Siège le président Paul Kagame. À l'occasion, le souverain pontife a imploré à nouveau le pardon de Dieu pour les implications de l'Église catholique lors du génocide de 1994 au Rwanda. Claire Morin-Gibourg.
C'est la première fois que le président Paul Kagame a été reçu par le pape. L'audience a duré 20 minutes. Le Vatican a fait savoir que le pape François, à cette occasion, a exprimé, je les cite, « sa profonde tristesse et celle du Saint-Siège et de l'Église pour le génocide contre les Tutsis » et sa solidarité avec les victimes et ceux qui continuent à souffrir des conséquences de ces tragiques événements. Après le premier mea culpa encouragé par Jean-Paul II durant le grand jubilé de 2000, l'Église catholique du Rwanda avait demandé pardon en novembre dernier en reconnaissant la nécessité de regarder l'histoire en face et l'accepter. Des excuses que Kigali avait qualifiées de profondément inadéquates, estimant que le Vatican lui-même devrait demander pardon. L'Église catholique a été à plusieurs reprises mise en cause pour sa proximité avec le régime Hutu extrémiste de l'époque. Entre avril et juillet 1994, de nombreuses églises ont été le théâtre de tueries de masse et des prêtres ont été reconnus coupables d'avoir livré les fidèles aux génocidaires.
Au Burundi, un colonel de la police a été retrouvé mort aujourd'hui à Bujumbura. Le cadavre du colonel Charles Ndihokubwayo a été découvert dans la cour intérieure de l'église de la paroisse Saint-Joseph d'Ongagara, dans le nord de la capitale. Une enquête est en cours selon le porte-parole de la police burundaise, qui n'a pas donné plus de précisions sur les causes et circonstances du décès. Au Burkina Faso, une attaque à la roquette a blessé aujourd'hui un militaire, selon les autorités. Cette attaque a visé une position de l'armée à Nassumbu, près de la frontière avec le Mali. Des précisions avec Solange Nyamouris.
Le camp de Nassumbu regroupe des policiers, militaires et gendarmes. Il a été attaqué ce matin par des hommes non encore identifiés. Il y a eu 3 tirs de roquettes qui ont fait un blessé, un militaire qui a été évacué sur Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Un témoin dit avoir entendu des tirs nourris et des grosses détonations. Dès le premier coup de feu, tous les habitants ont fui pour s'éterrer chez eux. Un chef de la police a indiqué que des opérations de ratissage ont été lancées à la recherche des assaillants et pour sécuriser la zone. Un gendarme a été blessé dans une embuscade contre une patrouille la nuit dernière à Petega, dans la même commune. Cette information n'a pas été confirmée par les autorités, mais à la mi-décembre, 12 soldats ont été tués lors d'une attaque djihadiste dans la même région.
Un avion de ligne s'est écrasé aujourd'hui pendant l'atterrissage à l'aéroport de la ville de Douaou, dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Il transportait 40 passagers et 5 membres d'équipage, effectuait la liaison entre la capitale Djouba et Ouaou. L'on déplore une dizaine de blessés. Les difficiles conditions météorologiques seraient à l'origine du crash, selon une source aéroportuaire. Le Congrès national africain, l'ANC, au bord de l'implosion. À 2 ans des prochaines élections générales en Afrique du Sud, le parti semble aujourd'hui plus divisé que jamais. Une lutte à couteau tiré oppose un clan légitimiste regroupé autour de l'actuel président Jacob Zuma et un groupe de frondeurs qui accusent le chef de l'État de corruption. La menace d'une défaite historique en 2019 divise donc la classe politique et déchire désormais la famille, même l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. L'aîné de ses petits-enfants, Dileka Mandela, a rejoint publiquement le camp des contestataires. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait l'objet de spéculations, a fait hier sa première apparition à la télévision depuis l'annulation en février de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en 2013. Monsieur Bouteflika a été frappé par un accident vasculaire cérébral qui a affecté sa mobilité et son élocution. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi rencontrera Donald Trump en avril à Washington. Les dirigeants égyptiens et américains discuteront notamment du conflit israélo-palestinien. En Tunisie, l'inauguration aujourd'hui à Tunis d'un drapeau tunisien géant a provoqué une polémique sur l'importation de Turquie du tissu ayant servi à sa fabrication. La nouvelle place du drapeau, située sur les hauteurs du parc du Belvédère, poumon vert de la capitale tunisienne. Les flux migratoires, loin d'être freinés, les gardes-côtes italiens ont secouru hier environ 3000 personnes en Méditerranée au large de la Libye. Des précisions d'Anastasie Toudiech.
C'est ce que les gardes-côtes appellent un phénomène de concentration. Après des jours calmes, les migrants arrivent par vagues successives, profitant de la météo favorable. L'Aquarius, un navire humanitaire, a secouru 946 personnes, dont 200 mineurs non accompagnés, qui dérivaient à bord de 9 bateaux de fortune. Selon des statistiques du gouvernement italien, du 1er janvier au vendredi 17 mars, plus de 16 200 personnes ont été secourues, contre près de 12 000 durant la même période en 2016. Les ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur la Méditerranée centrale sont réunis à Rome pour discuter d'un plan pour stopper les flux migratoires depuis la Libye. Un an après l'accord conclu avec la Turquie pour stopper les flux de migrants vers la Grèce, l'Union européenne cherche à établir un arrangement similaire avec Tripoli, une démarche fortement compliquée par le chaos qui règne dans le pays.
Anastasie Toudiech. L'ONU demande une enquête sur l'assassinat de plus de 40 Somaliens la semaine dernière au large des côtes yéménites. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré aujourd'hui que beaucoup de questions restaient sans réponse sur les circonstances de l'attaque contre un navire de migrants somaliens. Monsieur Grandi appelle toutes les parties au conflit du Yémen de faire la lumière pour établir les responsabilités.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Oui, à Washington, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a commencé aujourd'hui une audition publique sur les relations de Moscou avec Donald Trump. Le chef du FBI, James Comey, et son homologue Mike Rogers de la NSA, agence de surveillance des communications, sont interrogés sur les relations entre la Russie et le camp Trump. Le point avec Dilly Dico.
C'est une première, une audition publique des directeurs du FBI et de la NSA sur une collusion possible entre le clan Trump et la Russie. Les responsables du renseignement américain doivent répondre à des questions sur le rôle de la Russie dans les élections, les relations du Kremlin avec l'équipe Trump et des accusations de mise sur écoute de Donald Trump. Le directeur du FBI, James Comey, a contredit le président Donald Trump qui a accusé Barack Obama il y a plus de 2 semaines dans ses tweets d'avoir placé la Trump Tower sur écoute pendant la campagne présidentielle de 2016. Le département de la justice n'a pas d'informations soutenant ces tweets, a déclaré James Comey lors de l'audition à la Chambre des représentants. Quant au rapport indiquant que la Russie avait piraté les comptes de responsables démocrates et aurait tenté de peser sur le scrutin présidentiel pour avantager Donald Trump, il n'existe pour l'instant aucune preuve sur cette éventuelle campagne de déstabilisation. L'audition va donc permettre d'avoir des informations complémentaires et de savoir s'il y a des développements sur ces dossiers.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, entame aujourd'hui un déplacement de 3 jours aux États-Unis. C'est sa première visite à l'administration du président Donald Trump qui s'est montré très critique sur l'Alliance Atlantique. Monsieur Stoltenberg doit notamment rencontrer demain le secrétaire américain à la Défense, James Mattis. Mercredi, il va participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Moscou met en garde contre de graves risques en Asie-Pacifique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a critiqué aujourd'hui à Tokyo le déploiement du système américain de défense antimissile balistique en Asie-Pacifique en réponse à la menace nord-coréenne. Monsieur Lavrov y voit un grave risque pour la région. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à votre actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco avec Claire Morin-Gibourg.
Un montant record. La Banque mondiale va investir une enveloppe de 57 milliards de dollars sur les 3 prochaines années en Afrique subsaharienne. Le gros du financement, soit 45 milliards de dollars, va provenir de l'Association internationale de développement, l'agence de la Banque mondiale, qui accorde des dons et des crédits à taux zéro aux pays les plus pauvres. 448 projets déjà en cours en Afrique subsaharienne, région qui représente à elle seule plus de la moitié des pays éligibles à de tels financements, vont en bénéficier. Il s'agit notamment de programmes en faveur de l'éducation, des services de santé de base, de la propreté de l'eau et de son traitement, de l'agriculture, du climat des affaires, des infrastructures et des réformes institutionnelles. Autre soutien international au continent africain, les pays les plus riches du monde, réunis en Allemagne pour un G20 Finance, ont affiché ce week-end leur volonté de stimuler le développement économique de l'Afrique en y attirant des investissements de manière à développer l'emploi et les infrastructures. L'Allemagne a fait de ce partenariat, appelé Compact with Africa, une priorité de sa présidence du G20 cette année. L'Égypte a reçu durant le week-end les 2 premières livraisons de pétrole du géant saoudien Aramco après une suspension de plusieurs mois. 2 livraisons supplémentaires seront effectuées les 26 et 27 mars. Aramco avait décidé en octobre dernier de ne plus approvisionner l'Égypte au moment où les deux pays avaient fait éclater leur désaccord au sujet de la Syrie.
Merci Jacques Aristide pour la Muniteco. Sans transition, nous passons au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par cette suspension à vie d'un arbitre ghanéen.
L'arbitre ghanéen Joseph Lamptey, déjà sanctionné par la Confédération africaine de football, a été suspendu ce lundi à vie par la FIFA pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud-Sénégal. C'était le 12 novembre dernier. Le Sénégal avait été battu 2-1 par les Bafana Bafana en qualification du Mondial 2018. Le 22 novembre, la CAF avait décidé de suspendre Joseph Lamptey pour 3 mois pour avoir accordé un pénalty pour une main qui n'existait pas. Après enquête de la FIFA, instance suprême du football, le directeur du jeu a été reconnu coupable de manipulation d'un match pour avoir influencé illégalement le résultat. En revanche, toutes les charges pesant sur un autre arbitre ghanéen, David Leonard Larayi, ont été rejetées par l'instance disciplinaire de la FIFA.
Maintenant, la Ligue des champions d'Afrique, Mazembe éliminé, Nico.
Les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, tenants du titre, se sont qualifiés ce week-end pour la phase de poule de cette Ligue des champions après leur match nul un partout contre les Ougandais de Kampala Capital City Authority. C'était en match retour des 16e de finale. En revanche, le tout-puissant Mazembe est déjà éliminé à la suite de son match nul 0-0 contre les Zimbabwéens de Caps United. Quant à l'Espérance de Tunis, double vainqueur de la compétition, elle a réussi à éliminer le club guinéen de Oroya après une double confrontation.
On enchaîne avec le tennis, Nico. Roger Federer remonte au classement ATP.
Roger Federer a gagné 4 places pour remonter au 6e rang du classement mondial au lendemain de sa victoire dans le Masters d'Indian Wells, ce qui lui permet de repasser devant son grand rival historique Rafael Nadal qui descend d'une marche. Finaliste à Indian Wells, Stan Wawrinka conserve sa 3e place derrière Andy Murray, toujours numéro 1 mondial malgré son élimination dès son entrée de lice, et Novak Djokovic qui reste numéro 2 malgré son élimination en 8e de finale.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Spurs de San Antonio ont réagi après deux défaites consécutives en dominant dimanche les Kings de Sacramento 118-102. Cleveland a difficilement battu les Lakers de Los Angeles à Los Angeles 125-120. Boston, deuxième de la conférence Est, s'est incliné à Philadelphie 105-99. Et puis victoire de Portland à Miami 115-104.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila Kidza, en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique pour aborder les dossiers de ce soir. Le président rwandais Paul Kagame a rencontré aujourd'hui pour la première fois le pape François au Vatican. Au cours de cette audience, le souverain pontife a imploré à nouveau le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église et ses membres pendant le génocide rwandais de 1994. Pour réaction, Arzuma Compaoré a joint à Kigali le secrétaire exécutif du collectif Ibuka, Natsar Aisha Akiye.
Permettez-moi de parler en tant que survivant du génocide et en tant que secrétaire exécutif de l'Ibuka. Sa visite à Rome, et pour nous, c'est grand chose, parce que chaque fois qu'on parle, le génocide qui a été effectué ici, connu ici au Rwanda, chaque fois qu'on en parle, on parle aussi de l'horreur qu'a joué les membres de l'Église catholique. On a vu des prêtres et même ses supérieurs qui ont donné l'ordre aux gens de commettre le génocide, de détruire les églises dans lesquelles il y avait des réfugiés tout de suite pendant le génocide. Donc, pour nous, nous attendons un mot de la part du pape, si possible, de demander pardon en tenant compte de ce rôle qu'a joué les membres de l'église.
Est-ce qu'au niveau local, s'il y a déjà eu des actions qui ont été prises par l'Église au niveau local?
Il y a eu des actions qui ont été menées par l'Église. Et donc, de 1994-95 jusqu'à nos jours, il y a aussi un pas franchi. Et je crois, pour le moment, l'Église catholique participe aux activités commémoratives et joue aussi un rôle dans le processus d'unité et réconciliation des évêques catholiques, demander pardon à cause de membres de l'Église catholique qui ont participé au génocide, comme je disais. Et donc ça aussi, ça nous a montré que vraiment l'Église catholique reconnaît les faiblesses de leurs membres pendant ou face au génocide perpétré contre eux tous. Je crois que le sentiment national, le sentiment des Rwandais, et 23 ans après, les Rwandais sont contents d'un pas qui a été fait par le gouvernement dans le domaine du développement, dans le domaine de l'unité et réconciliation, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la reconstruction du pays.
Natsar Aisha Akiye, secrétaire exécutif du collectif Ibuka à Kigali, au Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Mali, la CEMA et la plateforme rejettent la tenue de la conférence d'entente nationale entre le 27 mars et le 2 avril 2017. C'est à la suite de l'annonce du gouvernement à cet effet. Les deux groupes estiment que cette conférence est mal préparée. À Bamako, Kassim Traoré donne les détails.
C'est la semaine passée que le gouvernement a suivi la restitution des travaux de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale. À l'issue de sa délibération, le Conseil des ministres a décidé de la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril à Bamako. Mahamadou Kan, journaliste.
L'État malien, en se précipitant pour organiser cette rencontre, bon, c'est clair que nos dirigeants ont leur agenda, mais le peuple a aussi son agenda. Compte tenu du contexte actuel, les personnels sanitaires qui sont en grève depuis plus de 10 10 jours, partie de l'enseignement fondamental en grève. Nous sommes minés par cette crise-là. Moi, je pense que le pays n'a pas besoin de ça maintenant. Est-ce que la réconciliation est en marche pour pouvoir organiser vraiment cette conférence d'entente nationale?
Il ressort des rapports de la commission préparatoire que de larges concertations ont été menées avec l'adhésion des forces vives de la nation pour la tenue de la conférence d'entente nationale qui sera organisée autour de trois thèmes: la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Aboubakar Nyan, président de la jeune chambre économique de Kaye.
Il y a beaucoup de choses à préalable qu'il faut faire avant de faire cette conférence parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau même du pays. Je crois qu'il devrait y avoir d'abord d'autres concertations et que nous d'abord expliquer davantage ces accords et que nous puissions comprendre réellement tous les contours avant de faire cette conférence d'entente nationale.
Conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la conférence d'entente nationale permettra d'approfondir les débats sur les causes profondes du conflit et d'élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation sur une base consensuelle. Kousetera, comptable.
Bon, pour moi, pour faire cette conférence est nécessaire, mais est-ce que c'est le moment et encore la date fixée? Est-ce tout ce qu'il faut pour pouvoir bien écouter chacun? Est-ce qu'on a pu mettre tout cela ensemble? C'est ça mon inquiétude. Et aussi, pour pouvoir faire ça, comme je l'ai si bien dit, ça va passer forcément par bien connaître les causes pour pouvoir échanger. Donc, à mon avis, c'est nécessaire, mais la date fixée, je trouve qu'on va essayer de faire quelque chose seulement qu'on veut le faire. Sinon, je ne pense pas que ça peut donner le résultat qu'on veut si on tient réellement à l'affaire à cette date.
Dans une déclaration, la CEMA et la plateforme ne se reconnaissent pas dans l'organisation de la conférence d'entente nationale. Pour eux, les concertations régionales ont été menées partout sauf dans la région de Kidal. Ils ont aussi mis l'accent sur la façon unilatérale dont la conférence d'entente nationale a été préparée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Et au Gabon, la Confédération syndicale dynamique, unitaire et trois mouvements ont condamné l'interdiction d'activité annoncée vendredi par le gouvernement. La CONACICED, un mouvement d'étudiants, exige l'annulation de l'arrêté ministériel qui les accuse de troubles à l'ordre public. Dynamique unitaire a réitéré son intention de boycotter le dialogue politique prévu le 28 mars et a annoncé le durcissement de la grève qui dure depuis des mois. Nathalie Barge a joint le président de la Confédération, Jean-Rémy Yama.
Toutes ces déclarations ont fustigé le comportement irresponsable du gouvernement. Au lieu de trouver des solutions de crise, ils enveniment la situation. Les syndicats de l'éducation nationale ont décidé de ne participer à aucune rencontre avec la tutelle si la CONACICED n'est pas rétablie. Et les ONG Educap Gabon et la plateforme des mutuelles des étudiants et des élèves des coopératives ont reconnu qu'à cette date, le 20 mars, plus rien n'est rattrapable. Le gouvernement devait avoir l'honnêteté de déclarer l'année blanche au Gabon parce que terminer une année dans de telles conditions, ce serait inadmissible pour nos enfants.
Et est-ce que la grève continue?
Bien entendu, la grève se poursuit et elle s'est durcie même. Parce que même, vous savez, au niveau de la CONACICED, il y avait certains établissements du primaire qui n'étaient pas en grève. Mais ce matin, il y a eu quasiment la plupart des établissements à l'intérieur du pays, en réaction à la décision du gouvernement, les écoles se ferment les unes après les autres. Nous avons par exemple tous les lycées et collèges catholiques qui sont fermés. Nous avons également les plus grands lycées et collèges de la capitale. Donc c'est l'indignation totale et c'est l'incompréhension aussi parce qu'on ne peut pas suspendre une confédération syndicale et ignorer les textes de cette manière. Donc le mouvement de grève se poursuit.
Le gouvernement accuse la CONACICED notamment de troubles à l'ordre public, entrave à la liberté de travail, violence et voies de fait. La CONACICED donc est membre de Dynamique Unitaire. Qu'avez-vous à répondre à cela?
Ce sont des accusations fallacieuses parce que troubles à l'ordre public, violence manifeste, ce sont des infractions qui doivent être constatées par les officiers de police judiciaire. Vous savez que la notion de trouble à l'ordre public répond à un certain nombre de principes. Et si le gouvernement avait constaté cette dérive, le gouvernement devait non seulement saisir les syndicats, mais pouvait également saisir la justice. Parce que c'est la justice qui peut suspendre un syndicat. Parce que la Convention 87, à son article 4, est claire. Les organisations syndicales
ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. Or, la décision du gouvernement est une voie administrative, ce n'est pas une voie judiciaire. Donc, nous ne reconnaissons pas les allégations du gouvernement.
Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire à Libreville, au Gabon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Avant de nous quitter, regard sur les 8 rencontres de la deuxième journée du championnat national de football féminin au Togo, disputé samedi 18 mars. Notre correspondante à Lomé, Kai Lawson, a suivi le derby entre Atletica FC et le club Les Amis du Monde.
Le derby de cette deuxième journée du championnat national de football féminin au Togo a opposé les deux meilleures équipes de la capitale Lomé. Atleta FC en maillot blanc et le club Les Amis du Monde en bleu ont livré un match digne d'une finale de compétition à la fois tactique et physique. Atleta Football Club a dominé la rencontre et l'a remportée sur un score de 3-1. Théophile Pakpokoumi est l'entraîneur d'Atleta FC.
Ah oui, je suis très content de mes filles. Elles ont bien mouillé le maillot et on a eu la victoire. Le championnat, c'est comme c'est une course de résistance. Nous allons essayer d'étudier les matchs un à un pour pouvoir arriver à être équipe championne du Togo. C'est ça notre objectif.
Le club Les Amis du Monde, première équipe féminine togolaise de football créée en 1992, est-elle rattrapée par l'âge? C'est pas le cas, rassure la coach Akouri Mausé Dekou, qui estime avoir joué avec une équipe B.
La défaut de l'Amis du Monde, c'est qu'on n'a pas d'effectif. On a trop de blessés, vous le savez. Et le match qu'on avait joué à Palibé, on a 4 au moins 6 blessés. Et je sais que dans l'avenir, on va chercher à travailler un peu de physique et tactique aussi. Et les joueurs sont déjà techniques, donc ça va aller.
Les amoureux du football féminin ont fait le déplacement du stade pour suivre ce match du premier championnat togolais de football féminin qui suscite de l'espoir. L'ami Tchédré, une ancienne joueuse.
C'est une très belle initiative du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Ça fait déjà plusieurs années que le football féminin se joue dans notre pays, mais jamais ce championnat national. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous recommençons tout à zéro. Quand vous voyez les matchs qui se jouent depuis le début de ce championnat, ce sont que de jeunes filles, très jeunes. Et dans l'avenir, je pense que c'est prometteur.
Débuté le 11 mars dernier, le premier championnat de football féminin au Togo se joue entre 16 équipes réparties sur tout le territoire national. Ce coup d'essai va permettre au Togo de détecter des talents afin de former une équipe féminine capable de s'engager dans des compétitions continentales. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, le duo Lionel de Ronanila Gahima et Smith Lumami. À la console, Richard Smith. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.